J'en ai assez, tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi?
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Ah bah oui, ça fait envie, hein. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement. Et dans ce CO2 Mon Amour à la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Benjamin de la Gâtinais, et assisté de Jérôme Boulet, c'est Christophe Imbert, oui, qui réalise l'émission, je n'oublierai pas non plus Albert Hook. Commençons par une petite humeur. Au moins une chose est sûre, nos sénateurs tiennent la forme. Le font sans doute un petit peu moins, surtout si l'on évoque une sensibilité aux problèmes environnementaux. Oui. Mais pour la forme, ça, il n'y a aucun doute. Vous vous souvenez, la semaine dernière, donc ils évacuaient d'un revers de manche la proposition d'interdire l'utilisation d'une famille de pesticides fortement décriés, les néonicotinoïdes, je vous en avais parlé, et devant ce camouflet, eh bien, les abeilles, oui, en ont attrapé un furieux bourdon, c'est amusant. Cette semaine, donc, ils récidivent avec la loi de transition énergétique qu'ils ont vidée doucement de sa substance avec une petite cuillère, mais ils y arrivent bien. Exit donc la réduction à l'horizon 2025 de la part du nucléaire dans la production d'électricité nationale. L'hypothèse reste envisagée, mais à terme. Au calende grec, et quand on dit grec en ce moment, bon. Évacuer tout autant la fermeture annoncée des réacteurs détenteurs d'une carte vermeille, hein, c'est-à-dire ceux de Fessenheim pour ne pas les nommer. Quant au développement des énergies renouvelables, avec ce retour en force de l'atome dans la copie du Sénat, il y a fort à parier qu'il n'incarnera pas exactement une priorité. Tenez, rien que pour l'éolien, avec des nouvelles dispositions sénatoriales, le souffle risque de manquer rapidement et au final, ce projet de loi Made in Palais du Luxembourg reste bloqué dans un schéma centralisé de production et de distribution d'électricité qui exclut de fait les productions plus modestes et surtout plus locales. Et comme c'est étrange, ce modèle décentralisé, bah c'est précisément celui qui est adapté aux énergies renouvelables. Eh oui, quand on vous dit que l'environnement, ça commence à bien faire. Ah, au fait, si vous souhaitiez vous réincarner en morse, ça, il vaut mieux y réfléchir à deux fois. Ça peut arriver, on peut. Alors, je vous conseille pas d'ailleurs abeille ou éléphant, c'est pas très bon non plus en ce moment, mais là en morse. Car plus au nord de la maison de la radio, ce sont les morses qui ne sont pas à la noce. 35 000 d'entre eux ont trouvé refuge sur une plage en Alaska. Bah non, c'était pas leur congrès annuel organisé par le club méditerranéen chinois, mais plutôt une conséquence probable de la fonte des glaces de l'Arctique. Alors je vous explique, car je parle quand même le morse tout à fait couramment, hein, donc c'est ça, une brève, une longue, une brève, une longue, bref. Notre Notre mammifère vit sur la banquise et pêche ses coquillages. Alors, il le pêche sans couteau à huître dans des eaux qui sont peu profondes. Et avec la fonte de cet été, le morse doit descendre à des profondeurs bien plus importantes pour se nourrir. Et il fatigue le pépère, et oui, donc il cherche refuge sur la terre ferme pour pêcher plus facilement. À part que la nourriture ne sera sans doute pas aussi abondante qu'autour de la banquise, et donc va y avoir une perte des petits, des bébés morses, bien plus importante. En gros, c'est la morse du déclin du morse, et le fameux morse, donc lointain ancêtre du SMS, tire devant nous le signal d'alarme. Alors, une question, au fait, ça coûte combien un morse? Il fait monter le PIB, le pinnipède? Non, mais les eaux, elles montent. Alors beaucoup de sujets aujourd'hui, même avec des gens qui raclent un petit peu de la gorge, mais ça n'a aucune sorte d'importance. Nous sommes extrêmement ouverts, très tolérants. Puis ça ne passe pas. Là, si vous êtes en voiture, ça ne passe pas les ondes. Rassurez-vous, on garde nos microbes. Ronde de journalistes aujourd'hui avec différents sujets sur la table, avec Jeanne Lingard de Mediapart, avec Hervé Kempf de Reporter sur le net aussi, on en parlera, et puis Frédéric Danhé de lui-même. Voilà. Et puis je vais donc aussi vous rajouter de vrais morceaux de chamois en Haute-Maurienne. Eh oui, si vous allez tranquillement à la neige ou si vous en venez, eh bien on verra aussi ce que font les chamois en hiver. C'est pas l'actualité? Bah si, pour nous c'est aussi l'actualité. Ah, alors, intéressant parce qu'on entend des oiseaux. Alors vous imaginez, nous sommes dans la Brenne, pas très loin de Châteauroux. Pays aux 1000, 2000, 3000 étangs, et c'est vrai que c'est beau. Vous avez des cistudes, vous avez des cols verts, vous avez des carpes, vous avez du verre. C'est beau et c'est reposant, la nature est reine. Et on peut même dire que la nature est en pole position dans l'Indre. Oui, on est aux portes de la Brenne, sur la commune de Saint-Maur. Et on attend avec impatience un circuit automobile. Alors, peuple de l'Indre, tu aimeras ce projet de millionnaire qui est fait pour l'édification des foules. Nous avons en ligne Michel Christophe parce que vous êtes le président de l'ADEST, qui est l'association de défense de l'environnement du site des Tournex. Donc, vous n'êtes pas du tout pour ce circuit automobile. Racontez-nous.
Alors, le projet, c'est très simple. C'est 3 km et quelques de pistes pour tout véhicule, roulant jusqu'à 300 km/h en pleine forêt de l'Aleuf, à quelques centaines de mètres du parc régional, à quelques centaines de mètres d'une zone de protection spéciale Natura 2000, dans un endroit les plus riches et les plus protégés au niveau avifaune, biodiversité. Mais ça n'a pas d'importance puisque le site est dédié au motocross depuis 30 ans et on va raser le site, virer les associations existantes pour les remplacer par des véhicules qui vont donc nous pourrir la vie et mettre à mal cette nature qui a beaucoup de mal à survivre dans des conditions optimales comme elles le sont actuellement.
C'est donc un investisseur privé, Promosax, qui est à la tête de ce projet, on va dire, de pôle de sport mécanique. Tout ce site assez soutenu, on va dire, par l'exécutif local. Bon, on imagine bien que les Verts sont contre, mais globalement, il y a une unanimité autour de ce projet ?
Tout le monde est contre, sauf les politiques qui portent ce projet, c'est-à-dire qui se comptent sur les doigts d'une main.
Donc aujourd'hui, c'est 80 hectares quand même qui sont menacés. Que peuvent faire les associations en cas d'utilité publique ?
Les associations, elles ne peuvent que défendre l'existence, c'est-à-dire toutes les associations qui sont sur les lieux. Toutes les associations de protection, environnement, tous les professionnels, que ce soit de l'agriculture, les forestiers, les pisciculteurs, sont contre ce projet. Donc, ils sont adhérents à notre propre association. Et de ce fait, ils se reposent peut-être un peu trop sur nous, parce que pour l'instant, on est une association très calme. Et on a essayé de discuter. Malheureusement, il n'y a pas de dialogue puisque tout est caché, tout a été fait en catimini depuis des années. Les choses se révèlent de jour en jour puisqu'aujourd'hui, on apprend que le parc régional a été sollicité pour toucher des mesures de compensation. Dieu merci, le président du parc et député local a refusé ces compensations parce que il a refusé évidemment de profiter de la mort de Pierre pour habiller Jacques. Mmh. Mais la partie va être très difficile dans la mesure où le maire de la commune concernée, qui doit être le décideur final, le signataire du permis d'aménager, nous dit très sérieusement d'ailleurs que de toute façon, il ne pourra pas faire grand-chose d'autre que de signer, car s'il ne signait pas, il ruinerait de ce fait la commune qui devrait rembourser les études qui ont été faites par le promoteur depuis 4 ans et que sa commune ne survivrait pas financièrement à cette opération.
Je parlais d'enquête d'utilité publique, où en est-on ?
Alors l'enquête d'utilité publique, enfin l'enquête non, l'enquête préalable est en cours de déroulement. Nous y participons dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire que nous évoquons au commissaire enquêteur toutes les incidences néfastes qui peuvent découler de ce projet, toutes les interrogations qui nous occupent, sachant que, de toute façon, ces commissaires enquêteurs n'ont qu'un avis consultatif.
Autre chose, le ministère de l'écologie, quelle est la position ?
Alors, la position du ministère de l'écologie, c'est de nous renvoyer vers le préfet en disant que, évidemment, toutes les instructions ont été données depuis 4 ans pour que tout soit bien respecté, mais comme tout est dans les clous, puisque le promoteur, du fait de ses moyens financiers, semble-t-il illimité à la possibilité de faire toutes les études, etc., qu'il veut, il le présente un dossier sous les apparences les plus trompeuses et sous des apparences qui, pour des gens qui sont de l'extérieur, peuvent paraître tout à fait valables et donc le jeu est faussé.
Ça veut dire que l'on va faire un circuit automobile vert, bio, développement durable, durable, soutenable.
On va laver plus blanc que blanc.
Et puis, on vous souhaite une bonne chance, vous qui êtes complètement réfractaire donc à la course automobile, aux essais automobiles et motocyclistes dans votre département. Donc, vous n'avez pas forcément compris, M. Christophe, que l'avenir passait par la bagnole, c'est ça ? Un petit circuit de Monaco dans l'Indre, ça vous ferait pas plaisir alors ?
Alors, nous avons beaucoup d'eau dans l'Indre. Ce sont des étangs magnifiques qui entourent le site. Il y en a 60. Alors, c'est pas la Méditerranée, mais c'est tout aussi beau dans un autre genre. Et nous espérons pouvoir conserver ce site avec ces milliers d'oiseaux hivernants, séjournants, migrateurs, reproducteurs, et pas ce broum-broum permanent 300 jours dans l'année qui serait insupportable pour tout le monde et pas supporté d'ailleurs.
Sur le site de CO2 Mon Amour, donc le site de cette association, hein, Tournex à Dex, donc faut juste rappeler aussi que Jean-Paul Chanteguet, qui est à la fois le député de l'Indre, président du Parc Naturel Régional et aussi président de la Commission Développement Durable à l'Assemblée Nationale, Dieu sait s'il y a du boulot, est opposé donc à ce projet, comme il l'a dit donc aussi à titre personnel. C'est jamais très simple, et là on est aussi de nouveau dans une espèce de conflit de civilisation, on va dire, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas exactement dans ce sens-là. Et on continue peut-être Frédéric Danhé.
Bah oui, on n'arrête pas de lancer des anathèmes contre le réchauffement climatique, le vilain pétrole, le CO2, et puis en même temps, voilà, on finance un circuit qui va faire vroom vroom, et en faisant vroom vroom, dans le projet de loi de transition énergétique, on est censé diminuer de 30% notre utilisation de combustibles fossiles d'ici 2030. C'est sûr qu'avec ce genre de projet, on donne pas forcément le meilleur exemple, mais bon.
De reporter, je pense que d'ailleurs ça fait partie aussi de la carte dans reporter des grands projets inutiles que vous avez sortis.
Oui, puis je voulais apporter d'autres parce que c'est bien de parler de ce projet automobile, parce qu'en fait, silencieusement, continue la grande destruction des terres agricoles en France, le grand gaspillage, la grande artificialisation des sols. Et malheureusement, on en parle très peu, merci d'en parler, mais je suis venu avec d'autres. Oui. Et j'allais dire, c'est la récolte de la semaine. Ce qui est effrayant, c'est que toutes les semaines, on peut arriver. Alors, encore un projet génial de golf à Saint-Hilaire-de-Brémas, près d'Alès, dans le Gard, où l'agglomération veut faire une zone, non pas à défendre pour l'instant, mais à aménager, en urbanisant autour d'un projet de golf qui sera accompagné de parking, d'immobilier, etc., qui pompera joyeusement de l'eau dans la nappe du Gardon par une conduite spéciale de 4 km de long. Évidemment, des terres agricoles, mais tout ça ne sert pas à grand-chose, alors que le golf, c'est utile. C'est aussi ce que l'on pense, ce que pensent des promoteurs à Montcombrou-les-Mines, à l'est de l'Allier, où là aussi on a un projet de golf. Alors c'est pareil, le golf, les villas, le parking, un centre équestre, des retenues d'eau, parce que oui, le golf ça consomme de l'eau, et puis il faut du pesticide pour avoir la petite herbe bien rasée pour que ces messieurs et messieurs dames poussent leurs petites balles blanches. Tout ça sur 300 hectares, les travaux ont déjà commencé, et cerise sur le gâteau, de la désespérance. Les villas sont déjà en vente alors que le permis d'aménager n'est même pas déposé.
Bon, on anticipe.
Voilà. Alors, ce qui est amusant aussi, dénonce, mais ces opposants qui sont au progrès, à la croissance, à tout ce qui réjouit nos cœurs et nos esprits, c'est qu'il y a eu un projet du même type en 2004 dans la forêt de Montpensier, au sud de Vichy, qui a hélas fait faillite. Mais vous voyez que l'esprit d'entreprise continue. L'esprit d'entreprise continue aussi dans Lot-et-Garonne, où il y a un Center Park en prévision sur 127 hectares de forêt sur les communes de Pindère et de Bauziac. Petits avantages fiscaux aidant au progrès, à la croissance et à toute cette sorte de choses. Une serre aquatique chauffée toute l'année.
Oui, c'est pas
on va consommer d'énergie parce que tous ces gens qui nous parlent de climat à longueur d'année aussi, ça commence à nous courir sur le haricot. Et encore un, le village Oxylane. Village, c'est joli.
Ah oui,
Oxylane,
c'est
oxygène.
Oui.
Oui, c'est une surface commerciale pour faire du sport. Parce que dans les équipements que vous avez cités tout à l'heure, vous avez parlé des voitures, etc., on allait même oublier les skis. Ils vont à la neige dans les embouteillages pour skier. Eh bien, au village Oxylane, de nord de Montpellier à Saint-Clément-de-Rivière, vous pourrez, si les choses se déroulent comme le progrès et la croissance, le désir, acheter vos skis et vos pneus neige sur 24 hectares de terres agricoles. Et là, autre petite cerise sur le gâteau de la croissance et du progrès, il y a déjà 3 décathlons, c'est-à-dire 3 types de ces surfaces commerciales sportives dans l'agglomération de Montpellier. Et Saint-Clément-de-Rivière...
Ils sont tous ouverts le dimanche, j'espère, quand même.
Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est une ville durable et une cité verte.
Voilà, et sûrement avec un bel agenda 21, au cas où. Écoutez, c'est très bien, je sens que vous êtes en forme avec M, donc de reporter. Jean Lingard va s'exprimer aussi dans quelques instants. Je vous propose pour tout ceci, allez, on adoucit. Mais oui, puis vous êtes en voiture, puis vous aimez Oscar Benton. Ah, si, regardez, en 73, c'était formidable, ça. C'est notre premier disque choisi par Thierry Dupin. Vous êtes bien sur France Inter dans votre magazine de nature et l'environnement. Bay Parkway Wonder, you're such a success.
Écoutez mes enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est primordial, il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le pont.
J'ai pas dit une chose.
Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu.
Ah oui, ça, c'est fini.
Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Bon, on sait pas tout, hein. Vraiment, je vous rassure. Voilà. Donc, vous êtes bien sur France Inter, CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement. Une ronde de journalistes avec un certain nombre de thèmes qui sont comme ça jetés sur la table. Enfin, par hasard, hein. Ça a quand même un rapport avec l'actualité, bien évidemment. Et aussi, vos appels 01 56 40 40 35.
Bonjour, Denis Chessoux, toute l'émission, toute l'équipe. Il fait pas beau dans le sud, alors on prend le temps de vous dire bonjour. Ouais, continuez. Salut à tout le monde.
Bonjour Denis, bonjour CO2 mon amour, Gilles Merclin à l'appareil de Lyon. Vous avez remarqué comme la République française est sympa. Elle offre une prime de 10 000 euros. 10 000 euros, presque 2 ans de RSA pour s'acheter une bagnole électrique. Il faut vraiment aimer l'automobile et l'automobiliste pour faire ça. Mais entre nous, qu'est-ce qui est le plus écologique, le plus social, le plus vertueux ? Le choix de la voiture électrique ou le choix de l'abandon de la voiture ? Évidemment, c'est la deuxième option. Alors à quand une prime à l'abandon de la voiture ? Voilà un exemple d'une politique authentiquement écologiste, c'est-à-dire une politique de sortie de la civilisation de l'automobile individuelle, et non pas de la mondialisation de la voiture pseudo-propre. Merci, à bientôt, au revoir.
C'est des idées comme ça qui arrivent aussi sur le répondeur 01 56 40 40 35. Donc surtout, ne vous gênez pas. Et vous étiez en train de dire, pourquoi pas, Hervé Kempf ou
Frédéric. Notre auditeur a parfaitement raison. On veut, dans la loi de transition énergétique, 7 millions de points de prise de courant pour brancher nos véhicules qui seront achetés grâce à cette prime de 10 000 euros. Tout ça pourquoi ? On ne peut plus brancher de radiateur électrique parce que c'est sur les centrales nucléaires, parce que ça ne se fait plus. Donc il faut bien trouver un dérivé. Il faut trouver quelque chose pour justifier les centrales nucléaires. Donc, ce sont les voitures électriques. Alors, on va essayer d'être positif. Ça pourrait avoir un intérêt dans le cadre d'une autoconsommation, d'une autoproduction, dès lors que tout le monde aurait sa petite centrale éolienne et photovoltaïque. Et dans ce cas-là, les voitures électriques disent les électriciens...
Vous avez bien compris que le Sénat n'en voulait pas.
Ça, ils n'en veulent pas. Mais ça, les électriciens nous disent que la voiture serait une merveilleuse batterie sur roue, dont l'intérêt serait surtout de stocker l'électricité que chacun produirait. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui justifie ces 10 000 euros de prime. Je rappelle juste, notre auditeur a raison, que le problème de la voiture, c'est la voiture. Ce n'est pas qu'elle pollue, c'est avant tout la voiture. C'est la place qu'elle occupe en ville. Voilà, c'est tout.
Bon, voilà. Bon, alors, non, mais continuez à rouler tranquillement. On ne vous agresse pas une seconde. Ce n'est pas ça l'idée. C'est de se dire, on essaie de se décarboner un petit peu l'esprit. C'est surtout ça dans cette émission. D'ailleurs, c'est le cas, Jadeline Garde, avec une actualité. Donc, je rappelle que vous travaillez à Mediapart et vous êtes bien intéressé aussi, vous, au climat à titre personnel. Ça fait pas la une des journaux, mais on est dans la journée du désinvestissement, on va dire, carboné. C'est ça. Alors, racontez-nous.
Dites-moi. Alors, c'est une histoire, en effet, qui vous aura peut-être échappé si vous avez écouté ou regardé les médias français aujourd'hui, mais qui, en fait, fait pas mal de barouf dans la presse internationale, notamment américaine et britannique. De quoi s'agit-il ? C'est une idée assez technique au départ et finalement qui devient un peu subversive, de désinvestissement, donc désinvestir. En gros, on appelle des banques, des institutions financières, des universités, le Conseil mondial des églises, donc toute institution qui... investit des fonds sur les marchés financiers, ce mouvement appelle à ce qu'elle redirige en fait tout cet argent, donc là on parle de milliards et de milliards et de milliards de dollars, qu'il redirige vers autre chose que les énergies fossiles. Fossiles, on rappelle, pétrole, gaz, charbon, c'est-à-dire ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et en fait ce truc est parti des États-Unis, d'un réseau qui s'appelle 350, créé notamment par Bill McKibben, qui est un universitaire et activiste américain, très actif sur le climat, très actif contre l'oléoduc Keystone, pour ceux qui ont choisi, donc qui est vraiment très impliqué
Qui amène de l'Alberta, du Canada,
les sables bitumineux
pour redescendre, donc après...
Jusqu'aux raffineries de la Floride.
Voilà.
Un projet très sympathique. Inutile de le préciser. Et donc, Bill McKibben dit, à un moment, justement parce que les responsables politiques sont au fond assez imperméables, globalement, à nos revendications climatiques et environnementales, il faut agir sur autre chose, et par exemple sur la finance. Mmh. Et là, il y a une articulation qui est assez imparable, qui est de dire, regardons ce qu'on négocie aujourd'hui dans les négociations climatiques. Les États du monde se sont mis d'accord pour dire pas de hausse de température supérieure à 2 degrés. On va rentrer dans un truc un peu mathématique. Donc si on ne veut pas augmenter de plus de 2 degrés, ça veut dire que l'immense majorité des réserves connues aujourd'hui de pétrole, de charbon, de gaz ne peuvent pas être exploitées.
D'après le GIEC, il faudrait pratiquement laisser 80% de ces réserves fossiles sous nos pieds.
Voilà,
donc...
ça serait 80% charbon. Il y a eu un article dans Nature en début d'année, 80% charbon, 50% pétrole et un petit peu moins pour le gaz.
Pour le gaz, oui.
Donc, tous ces financiers qui ne sont pas forcément ni des hippies, ni des écolos dans l'âme, ils ont commencé à faire le calcul. Mm-hmm. Ils ont dit, Voilà ce qu'on peut encore sortir comme énergie fossile du sol. Voilà le cours du pétrole aujourd'hui. Voilà ce qu'on a comme investissement. Donc, toutes ces réserves fossiles, ça fait à peu près 5 000 milliards de dollars, hein, estimés oui. en valeur. Hein, c'est beaucoup de pépettes. Ils regardent et ils disent, mais en fait, il y a un moment, si on ne peut pas forer ce pétrole et, extraire ce charbon, ça ne va plus rien valoir. Donc, nous, financiers et banques qui avons des parts dans BP, Shell, Total, etc., etc., il faut peut-être qu'on commence un peu à
se bouger,
à se protéger de ce risque de bulle carbone.
Alors c'est ce qu'a fait le fonds norvégien aussi. Hein, donc,
le fonds souverain de la Norvège.
Ça, c'est très intéressant.
Rien, quoi. C'est l'État norvégien qui est quand même un gros producteur de gaz et de pétrole.
Ils ont 870 milliards de dollars d'actifs.
Hein, donc, c'est sérieux.
De réserves pour leur retraite et pour éventuellement leur investissement écologique.
Absolument. Donc, c'est quand même, encore une fois, on est sur des masses quand même hyper significatives. Et bien, eux, pas tout, mais en partie, on dit, nous, maintenant, on va désinvestir du fossile. On va mettre un peu des billes sur les énergies renouvelables, efficacité énergétique, etc. Il y a un truc qui a beaucoup fait discuter aux États-Unis. Les héritiers de la fortune de Rockefeller, donc Rockefeller, c'est Monsieur Pétrole, hein, c'est fondateur de Standard Oil. Donc, c'est le fondateur de toute l'économie pétrolière américaine, d'une certaine manière. Bah, ces héritiers ont un fonds, comme plein d'héritiers, aux États-Unis, et on dit, nous, on se retire des fossiles. Il y a une citation extraordinaire qui a accompagné cette annonce. Ils ont dit, si Rockefeller, donc leur aïeul fameux, était vivant aujourd'hui, en bon homme d'affaires, il regarderait le futur. Et le futur, aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables.
Oui.
Alors, eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'en avaient pas beaucoup dans les fossiles. Donc, je dirais, c'est plus symbolique qu'effectif, mais quand même, c'est un sacré symbole et qui a beaucoup fait discuter et qui, aujourd'hui, est utilisé diffusé par cette campagne de 350 qui, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, a une sorte de génie quand même communicationnel.
Ça doit être 350 ONG, a priori, hein, c'était ça ou...
C'est 350.org. Voilà. Parce que 350 ppm,
parties par million
de CO2 dans l'atmosphère à ne pas dépasser, pour ne pas dépasser 2 degrés.
Il y a peut-être encore plus
On reste dans les maths, voilà, quoi, c'est une logique financière et ça, une forme d'efficacité.
Frédéric Denry, alors justement, dans cette actualité, on a ce pétrole, on va dire, qui baisse, on est autour de
53 pour le pétrole texan, le WTI, 61 tout à l'heure avant l'émission sur le Brent.
Se dire que nous sommes dans du structurel, il ne faut peut-être pas exagérer, mais du conjoncturel, ça sûrement. Donc qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Bonne et mauvaise nouvelle? Bon et mauvais signe.
C'est très paradoxal. On est un peu dans la situation de 86, le contre-choc pétrolier qui avait été décidé conjointement par les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour assécher les finances russes, déjà largement mises à mal par la course à la guerre des étoiles impulsée par les mêmes États-Unis. Aujourd'hui, donc, on est entre 50 et 60 dollars. Il faut savoir que l'équilibre budgétaire des pays pétroliers est menacé à partir de 101 dollars, en dessous de 101 dollars, par exemple pour la Russie. Voilà, cherchez l'erreur. 130 dollars pour l'Iran. Par contre, des pays comme la Norvège, eux, s'en fichent royalement. Pour eux, c'est 40 dollars. Le Qatar, 60 dollars. Le Koweït, 54 dollars, etc. Le Venezuela, menacé, proche de la récession. Pas de la récession, de la faillite, parce que le pétrole n'est pas assez cher. Et puis, par exemple, l'exploitation de gaz de schiste est remise en cause aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle n'est rentable qu'à partir de 65 dollars.
Oui. Donc, voilà. Si on est à 50 ou 53...
Certains pétroliers estiment même que c'est 50 dollars. Donc, l'aura qu'a aujourd'hui l'exploitation du gaz de schiste, enfin, le boom du gaz de schiste risque de s'affaisser. Donc, tout ça est très conjoncturel. Non,
l'idée, c'est quand même de flinguer la Russie et l'Iran.
Enfin, il y a l'Iran pour l'Arabie Saoudite, il y a la Russie pour les États-Unis. Et puis, pour l'Arabie Saoudite, il y a aussi de flinguer les États-Unis qui sont leurs premiers concurrents.
Exact.
Aujourd'hui, ils sont devenus exportateurs nets de pétrole. Et pour la Norvège, c'est très paradoxal parce que la Norvège, son équilibre budgétaire donc, est à 40 dollars.
Oui.
Il faut que le baril soit 40 dollars. Mais l'équilibre de son fonds de retraite et d'investissement sur les transitions énergétiques a besoin d'un baril à 60 dollars. D'ores et déjà, ils estiment qu'ils vont devoir taper dedans parce qu'ils ne pourront plus autant injecter de liquidités dans ce fonds. Et tout le paradoxe de la Norvège, en même temps, ils veulent se désengager, mais en même temps, constatant que depuis 35 ans, le volume des glaces en Arctique a baissé de 70%, lorgnant sur l'énorme champ gazier de Stockmann devant la Russie en mer de Barents, c'est aujourd'hui libre de glace, eh bien, le gouvernement norvégien a ouvert à l'exploration 57 zones possiblement rentable d'un point de vue pétrolier et surtout gazier. La Norvège se désengage du fossile, certes, mais surtout du pétrole pour se réengager sur le gaz. Je rappelle juste un chiffre, Denis, c'est que si on voulait, bon c'est un fantasme, ne pas dépasser 350 ppm, il faudra ne plus toucher un tiers donc des réserves
partie
pétrolières.
Partie par million.
Partie donc, par million, voilà, grammes par tonne, si vous voulez. Il faudra ne plus toucher, ne pas toucher à 30% des réserves pétrolières, la moitié de nos réserves gazières et 80% des réserves de charbon. Est-ce qu'on va y arriver ? La réponse est un peu dans la question.
Oui, c'est sûr. On rappelle juste quand même, parce qu'il y a sûrement un certain nombre de personnes qui vont dire PPM, on ne l'a peut-être pas assez expliqué.
Partie par million, un gramme de CO2 par tonne d'atmosphère, si vous voulez.
Là, on est à 400.
On est à 400.
Et on est déjà à 400. Et je constate que l'Arabie Saoudite est en déficit pour la première fois.
5% de déficit budgétaire, mais ils ont 750 milliards de côté. Non, blague dans le coin.
Non, 5% du PIB.
Du PIB, pardon.
Nous, on est à presque 100%.
Blague dans le coin, c'est vachement important pour ces pays-là, parce que leur équilibre social ne repose que sur une distribution d'argent. Ils sont presque tous fonctionnaires, et c'est ce qui maintient les tribus formatrices de ces États entre elles. Donc si le cours du pétrole baisse trop, la grande panique pour le Pentagone, c'est que ça pète de tous les côtés.
Joie, bonheur. Hervé Kempf, je sais que vous revenez d'Égypte, et là on peut faire aussi un lien avec le climat, parce que vous avez rencontré entre autres des chercheurs sur le climat.
Oui, tout à fait, en agriculture. En même temps, ce que j'avais un sentiment un peu mélangé, parce que à la fois les Égyptiens là-bas commencent à penser réellement au changement climatique, ne serait-ce que parce que le temps, comme chez nous, change. C'est-à-dire que si on regarde dans pas mal de massifs, en Lozère par exemple, ou dans le massif central, ou dans le Jura, il y avait de la neige il y a 30 ans, maintenant il y en a quasiment plus, ou très rarement, ou etc. Il y a un petit peu la même chose en Égypte. On vous dit, mais là, l'hiver est très froid. En fait, il fait très froid. Là, j'ai pris froid, en fait, en Égypte. Et il fait très froid par rapport à la normale. Il y a même eu, il y a quelques semaines, deux semaines à peu près, de la neige à Alexandrie, et par ailleurs les vents de sable qui normalement arrivent vers mars-avril étaient là la semaine dernière. Donc voilà, première perception, les gens se disent le temps est en train de changer, tout ça est bizarre. Par ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques, puisque vous le savez, l'Égypte est un pays désertique pour la plupart de sa superficie, avec un delta qui dépend notamment du Nil et qui est confronté en bord de la Méditerranée. Donc il y a une inquiétude et pour l'érosion du delta et pour la salinisation éventuelle des eaux. Et puis aussi, peut-être plus inquiétant d'après les spécialistes de l'agriculture que j'ai rencontré, une baisse des rendements des céréales à l'avenir. Et ça a été assez bien calculé, notamment pour le blé, notamment pour le riz. Et comme ce sont des grandes céréales produites en Égypte, c'est une vraie préoccupation. Et puis par ailleurs, dans un pays où il y a encore une paysannerie très importante, qui a des superficies moyennes d'exploitation d'un fédane, c'est-à-dire un demi-hectare, c'est-à-dire une économie extrêmement fragile, et bien une grande inquiétude par rapport à la vulnérabilité de ces paysans. Et puis en même temps, autre aspect du sentiment, c'est que on sent tellement la difficulté, la misère d'une très grande partie de la population, qu'en quelque sorte, quand nous on parle du changement climatique en disant ça va être terrible, etc., la vie est déjà terrible pour une grande partie de la population. Et donc, ça introduit beaucoup de relativité dans les choses. Et pour en revenir, par exemple, pour conclure un petit peu rapidement sur cet aspect agricole, oui, on peut craindre la baisse du rendement du blé, mais en ce moment, la production égyptienne est déjà en quelque sorte mal gérée, parce que elle n'est pas stockée dans des silos très souvent, mais sur des superficies dégagées. Ce qui fait que chaque année, les spécialistes agricoles disent nous perdons 20% de notre production chaque année. Donc avant de se préoccuper du changement climatique, il faut trouver le financement, bâtir des silos pour conserver cette quantité de blé importante qui représente 1 million de tonnes pour être précis. Mais pour l'instant, il se trouve que le gouvernement a jugé plus utile d'acheter, comme vous le savez, des rafales.
Des rafales, qui vont bien sûr nourrir sa population.
Bah oui,
certainement, bien sûr.
Qui vont faire baisser le réchauffement climatique.
Parce qu'on observe exactement le même phénomène dramatique de perte de réserves alimentaires dans un autre pays où il y a aussi des personnes qui souffrent de la faim, qui est l'Inde. Il y a eu un énorme scandale, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, je crois, parce que notamment, c'était des fonds qui avaient été financés par l'aide internationale. Et en fait, la désorganisation, la misère sociale, les difficultés politiques, etc., s'étaient regroupées pour empêcher en fait la distribution de cette aide alimentaire. Et ce qui montre bien que la faim dans le monde, elle est causée beaucoup plus par les problèmes économiques, la crise et les crises sociales et le manque de démocratie, le manque d'organisation d'État, beaucoup plus que par le manque de quantité produite, qui est l'argument historique de toutes,
c'est ce qu'on nous sait régulièrement,
de toutes les industries chimiques présentes dans l'agriculture. Et ce qui est terrible, moi, je trouve, dans ce que décrit Hervé de l'Égypte, c'est que par ailleurs, l'agriculture aujourd'hui productiviste chimique comme elle est, et OGM, etc., est l'une des toutes premières causes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cercle vicieux. On a parlé beaucoup d'énergie, de la voiture, etc. tout à l'heure, mais l'agriculture aujourd'hui, à la fois en émissions de méthane, mais à la fois aussi toutes les émissions qui sont liées à la fabrication des engrais et pesticides, est une cause majeure de réchauffement climatique et qui est pour l'instant quasiment sans prise. En fait, les négociations même climatiques internationales, elles portent très très peu sur ce secteur-là, alors qu'en fait, c'est vraiment majeur.
Alors regardez, parce qu'on a un message qui est très intéressant, un message qui est très intéressant, qui nous est arrivé au 01 56 40 40 35, qui est là aussi loin dans la transition et la transition positive.
Bonjour Denis, bonjour à tous. C'est Marie de l'Humeau à La Rochelle. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et si on faisait une fleur à la planète ? C'est aussi la première journée mondiale du désinvestissement des énergies fossiles. Et si on mettait un peu moins d'argent dans le pétrole et le charbon et un peu plus dans les énergies renouvelables ? Ça tombe bien, avec l'Humeau, vous pouvez épargner jusqu'à lundi soir dans deux toitures solaires développées par le syndicat de communes de la Vienne, au sud de Poitiers. Et oui, grâce à l'Humeau, c'est possible d'investir dans les énergies renouvelables et de donner du sens à votre épargne dès 25 euros. Vous faites une fleur à la planète et le soleil vous récompense en retour. Paris accueille la conférence climat en décembre. Montrons au reste du monde que les Français sont prêts pour la transition énergétique. Que nous, citoyens, sommes prêts à investir à long terme pour développer les énergies renouvelables.
De la musique aussi sur France Inter dans votre magazine de nature et d'environnement. Et puis après, je vais vous emmener, on est toujours avec nos amis, mais je vous emmène quand même en Haute-Maurienne voir les chamois.
Une porte qui claque, un, deux, trois verres de cognac tombent en vrac, c'est l'attaque. Et puis elle craque, l'âme de solitude, lassitude, se ténue d'une prélude, inquiétude, interlude d'une jeune fille brute. C'est juste une fin un peu banale, le final, terminal, histoire sentimentale qui fait son carnaval. Puis vient la renaissance, imprudence, on s'en balance, c'est de la démence. Passé composé d'une épopée démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, futur de quelques murmures, écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Parole qui dérape. Trois gouttes sur la nappe, il l'attrape, elle le frappe. Prochaine étape, puis on se bagarre, se sépare. Départ pour un long cauchemar, style polar, grand boulevard d'un beau bazar. Ce sont les restes d'une ivresse, de jeunesse, de vieillesse. Une tendresse qui s'abaisse à la tristesse. Souvenir de ses beaux sourires, quelques soupirs, pire qu'un désir, trace d'un délire. Passé composé d'une épopée démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, futur de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Passé composé d'une épopée démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, futur de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Aux baisers ratures, aux parfums impurs, aux corps immatures. Passé composé d'une épopée démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, futur de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Passé composé d'une épopée démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, futur de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. C'est juste une rupture, morsure, cassure, fêlure, quelque chose qui se casse. Te dépasse le plancher que l'on débarrasse, c'est ton cœur que l'on dévase, mais quelque chose qui finira par se tasser.
C'était Rupture de Laurie Darmon. Et ça nous amène sur un autre climat. Alors c'est aussi une actualité qui est un peu différente. Je ne pense pas que nos amis vont débattre là sur France Inter de l'actualité du chamois. Mais je vais vous emmener en Haute-Maurienne, dans le beau département de la Savoie. Nous sommes donc dans la Haute-Maurienne bien nommée. On va rencontrer Yves Berneron. Yves Berneron, c'est un homme qui est vraiment en complète relation avec son milieu, à savoir la montagne. Il intervient de temps en temps dans cette émission. Alors vous imaginez, nous avons le col du Mont-Cenis à nos pieds. On le voit, là il y a un petit peu de brume, mais quand même c'était une tempête presque de ciel bleu ce jour-là. Donc nous sommes dans ce massif franco-italien. Face à nous, nous avons le parc national de la Vanoise. Et nous avons donc ces chamois. Et alors c'est vrai que, bon, les marmottes, on a compris, elles roupillent. Parfois, elles ont fait leur réserve de graisse. Mais les chamois, je veux dire, comment ils font dans cet univers minéral et que mangent-ils? Alors vous allez peut-être les découvrir quand vous serez à ski, quand vous serez arrivé dans votre station. Mais ils vous regarderont davantage que l'inverse.
C'est vrai que c'est très dur, à vue d'ici, cette montagne est absolument toute couverte de neige, on ne voit apparaître que les rochers, mais il faut savoir qu'on a du vent en haute montagne, et ce vent va balayer la montagne, d'un côté, de l'autre, suivant sa direction, et les chamois connaissent parfaitement les vents, et c'est comme ça qu'ils vont trouver à manger. Ils suivent les vents, tout simplement, ou même les avalanches. Les avalanches balayent la montagne, la rabotent, dégagent de ci, de là, un petit peu d'herbe, et c'est là que les chamois vont trouver à manger. En gros, c'est bien maigre, hein, c'est sûr. Au niveau du sol, l'herbe garde toujours une partie très vivante. Et c'est ça que le chamois va manger. Il ne va pas s'amuser à manger l'herbe sèche en boue, non. L'herbe, carrément au niveau du sol. C'est pour ça qu'il attend que le vent vienne.
Alors ici, nous sommes dans un endroit où peut-être qu'on ne les a pas encore aperçus, mais eux, a priori, nous ont déjà aperçus.
Ah oui, oui. Ils connaissent tellement bien leur montagne. Et puis, ils n'ont pas une vue extraordinaire, mais une ouïe sensationnelle et puis surtout un odorat extraordinaire. Ouais. Et sur ces flancs sud de la Tura, là, c'est vrai qu'ils sont très présents. Hier encore, il y avait une harde de près de 50 chamois juste en face de nous. Le vent a changé un petit peu, tu vois, cette nuit. Il a blanchi ce côté-là. Il a certainement dégagé l'autre. C'est pour ça qu'ils sont de l'autre côté. Mais on ne va pas tarder à les voir arriver sur l'arête. Ouais.
Et depuis longtemps, vous les observez, vous les regardez. Cet animal-là, bon, c'est bien sûr l'emblème de la montagne. Il y a sûrement un plus qu'on ne connaît pas et que vous arrivez à percevoir.
Ah oui, je pense que la beauté intérieure de cette bête, c'est la montagne, justement. C'est le reflet de la montagne. C'est la bête qui s'est le plus adaptée et qui connaît le mieux la montagne. Elle est fantastique, rien ne lui échappe. Elle connaît le moindre passage d'avalanche, le moindre vent. Elle connaît bien les habitudes des hommes. Elle sait que les hommes sont dans la vallée, qu'ils ne sont pas dangereux en hiver, avec lorsqu'ils font bien trop de bruit. Ils sont habillés en rouge, en bleu, en vert. Donc pas de problème pour eux. Cette bête a une force intérieure fantastique. Et quand on peut l'approcher, comme j'ai la chance de le faire très souvent, il y a comme une télépathie qui passe entre les bêtes et moi, et j'en suis sûr, et elles racontent leur vie, leur liberté, cette folie de liberté qui est la leur.
Il doit être tout maigrichon, Yves, lorsqu'il arrive le printemps. Alors, faut préciser peut-être que le printemps, quand même, en montagne, ici, c'est pas le 20 mars ou le 21 mars, hein, c'est un peu plus tard.
Non, le printemps vient très tard. Il y a d'ailleurs très peu de printemps dans la montagne. L'été explose tout de suite après l'hiver. Hein. Le printemps n'existe pratiquement pas ici. Et bien sûr que ces chamois, quand on va les rencontrer au mois de mai, au moment où les chèvres sont en train de mettre bas, ils ont une drôle d'allure. Hein. Ils ont souffert de l'hiver. Hein. Ils se sont amaigris. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'en hiver, ils se couvrent d'un poil très dense, très long, qui les met à l'abri du vent, du froid, et surtout de la pluie et de la neige. Et puis ce poil, ils le perdent au printemps pour trouver un habit neuf, plus léger. Alors il y a encore des lambeaux de ci, de là. Alors on a vraiment l'impression qu'ils sont en guenille. Là, à ce moment-là, ils ont une drôle d'allure. Mais très très vite, avec l'herbe du mois de mai, ils se refont une santé fantastique et c'est reparti pour un été merveilleux pour eux.
Il y a un nom qui est très joli, parce que l'on parle des chamois, c'est celui d'Éterloup. L'Éterloup, c'est le petit, qui a déjà un an, je crois.
C'est le petit qui a un an. Hein. Il est chamoiseau ou cabri de sa naissance à un an. Donc pendant du mois de mai, au mois de mai, il va rester cabri ou chamoiseau. Et puis au mois de mai, ses cornes ont déjà poussé de 4 ou 5 cm, alors il devient Éterloup. Et il restera Éterloup comme ça jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, tant que ses cornes sont en dessous de ses oreilles. Une fois que les cornes sont plus longues que les oreilles, il a le malheur d'être chamois adulte, donc un chamois qui peut être chassé aussi.
Alors là, Yves, on les a, ça y est, là, ils sont sur la crête. Hein.
Là, on les voit sortir. tous en file indienne. Il y en a toujours un qui connaît mieux les chemins que les autres, dans une zone qui reste difficile, parce que tu vois, il y a encore des corniches extrêmement importantes en crête qui dominent ces flancs très très raides.
Donc ils peuvent tomber.
Et surtout ne pas passer en dessous ni dessus, et s'éloigner, chercher les passages où ils risquent le moins possible pour venir là rencontrer ces plaques où le vent a déneigé et où ils vont trouver un petit peu d'herbe. Tu vois, ils avancent avec beaucoup beaucoup de prudence.
C'est vrai qu'ils ne dépassent pas, on va dire, ils dépassent pas le chef. J'ai passé pas le bon mot, mais...
Non, mais c'est toujours en général une chèvre, hein. La plus vieille chèvre du troupeau.
Ils envoient les filles d'abord ?
Non, c'est qu'elle a de meilleures connaissances. Les chèvres ont une meilleure connaissance encore de la montagne que les mâles, parce qu'elles ont la responsabilité des jeunes. Elles doivent garder les petits pendant un an, et puis au bout d'un an, refaire un autre, et le garder encore à nouveau un an. Elles assurent la pérennité de la race. D'ailleurs, ce sont les chèvres qui sont si haut en altitude. Les mâles, eux, n'hésitent pas à descendre en sommet de forêt, voire même au fond de la forêt sur les versants sud, tout près des maisons des hommes, parce que ils ont moins le souci des autres que les femelles, qui ont toujours les petits avec elles.
Donc, comme le chantait le poète, la chèvre est l'avenir du chamois. Quoi.
C'est une vieille légende, bien sûr. Ouais.
Alors, nous ne sommes pas là spécialement pour faire du comptage et des statistiques, mais vous en voyez combien, vous, Yves, à peu près ?
Sensiblement une vingtaine, hein, parce qu'il y en a toujours encore quelques-uns qui sortent de derrière la corniche, là-haut. Ça fait certainement un troupeau de 25 ou 30 qui est là, une belle harde, oui.
Ouais.
Et là, ce sont essentiellement des chèvres et des petits. C'est très très haut, ils sont à 3000 mètres d'altitude à peu près.
Mais alors, les mamans, elles sont pleines, là, parce que a priori, si elles mettent bas au mois de mai...
Oui, bien sûr, les chèvres sont pleines. Elles commencent à être lourdes, et c'est pour ça qu'elles sont très prudentes. Elles font attention à ce ventre qui porte le petit. Et les naissances, oui, vont avoir lieu toujours dans la première quinzaine du mois de mai. Ouais. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand on sait qu'au mois de mai, on a encore des tempêtes de neige comme pas possible, ici, à cette altitude-là, et que les femelles de chamois vont mettre au monde leurs petits dans ces conditions, c'est extraordinaire.
Bon, bah écoutez, on va se régaler avec ce spectacle, et puis voilà. On se dit à bientôt, on se retrouvera. Hein.
À bientôt, Denis, grand plaisir.
C'était sur France Inter dans C'est haut de mon amour, notre actualité, on va dire, naturaliste. Je pense pas que vous allez en entendre parler beaucoup ailleurs, donc le chamois en hiver avec Yves Berneron. Nous sommes dans le département de la Savoie, en Haute-Maurienne, on n'était pas loin donc du Mont-Cenis, avec cet homme délicieux, un formidable passeur d'histoire. On va revenir donc sur cette ronde de journalistes avec... Jade Lingard de Mediapart, avec Hervé Kempf de Reporter. Alors, allons-y tout de suite. Tenez, effectivement, quelques nouvelles quand même de Reporter, dont votre site aujourd'hui. Comment ça se porte? C'est vrai que vous êtes... heureusement, le net fonctionne bien hein, sur l'écologie. C'est extrêmement nourri. Mais quelques mots de Reporter quand même, Hervé Kempf.
D'abord, c'est le site d'une équipe, hein, voilà. Portée par l'association La Pile et une équipe de journalistes jeunes et qui ont plus jeunes que moi et qui ont vraiment la pêche et de l'enthousiasme et de l'énergie. On va bien, on est donc le quotidien de l'écologie sur internet, reporter.net, en accès libre et sans publicité, et reposant très largement sur les dons des lecteurs. Et ben, je crois qu'on a réussi pour l'instant à montrer qu'on pouvait faire de l'information quotidienne sur l'écologie, qu'on pouvait être présent, qu'on pouvait sortir des informations. Et par exemple, être présent, on a parlé des invests, ce que expliquait très bien Jade, c'était le sujet de une de jeudi. Ce matin, on fait le récit de ce qui s'est passé à Grenoble, à Genève sur les négociations sur le climat. On va sortir une enquête justement sur les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture jeudi prochain. Et puis une grande enquête un petit peu surprise après au moment du salon de l'agriculture. Donc voilà, ça va bien. On dépasse 15 000 visites par jour. On voit les bonnes choses et on est toujours attentif aussi bien à ces enquêtes un peu punchy ou informatives et puis aussi aux alternatives. Et là, par exemple, l'alternative du jour, c'est une AMAP, mais une AMAP originale en Seine-Saint-Denis puisque c'est une AMAP menée par des anarchistes en autogestion. Et ça marche très bien. Hein. Ils échangent les légumes comme dans toutes les AMAP, mais ils essayent de vivre un petit peu différemment.
Ils ont l'estomac comme tout le monde. Donc,
voilà. Une des nouvelles intéressantes de ça, c'est qu'après tout, on peut être anarchiste sans être bizarre.
Oui.
Voilà. Donc, l'anarchie, ça peut être très bien et très quotidien, et avec des gens comme vous et moi.
Ils ont une carte d'anarchiste
Non, il n'y a pas de carte d'anarchiste.
Par définition,
heureusement.
Peut-être même.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ouais. Voilà, que te dire. Et puis juste, on a quand même encore une maturité jaquette un petit peu tristounette, un petit peu voilà. Et ben la bonne nouvelle, et je le révèle à CO2 mon amour, on l'a pas encore dit en public, mais la nouvelle maquette de Reporter sera le lundi 2 mars. Chouette. Beaucoup plus dynamique, moderne, avec un mieux jeu d'image aussi. On a produit beaucoup de dossiers, d'archives, on pourra les retrouver facilement, et puis une mise en scène plus sympa.
Et puis évidemment, tout ceci, bah, c'est le net, cher Jadine Gard. Donc qu'est-ce que l'on constate ? On constate que Apple, eh bien, va investir 800 millions de dollars dans les énergies renouvelables.
Ouais, moi, c'est une des nouvelles que j'ai trouvé vraiment marquante cette semaine. Donc, c'est même 850 millions de dollars exactement qu'Apple va investir dans un champ de production de photovoltaïque en Californie. C'est en co-investissement avec First Solar, qui est une des grosses boîtes américaines du photovoltaïque. Et ce que je trouve significatif, en fait, c'est deux choses dans cette histoire. Et je dirais, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est de voir que Apple investit dans du photovoltaïque et non pas dans de l'extraction de charbon au sommet des montagnes et non pas dans une mine de charbon, du gaz. Enfin, on voit vraiment, encore une fois, pour moi, c'est la confirmation de ce qu'on disait juste avant sur le désinvestissement. C'est vraiment d'un moment de bascule d'une économie vers les renouvelables. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect plus négatif, c'est que ça nous rappelle à quel point Internet est ultra consommateur d'énergie, mais à un point vraiment, vraiment très, très impressionnant. Et que donc, on a vraiment un très gros problème d'énergie et de climat posé par le développement d'Internet.
Alors, les serveurs dans le monde, c'est 4% de l'électricité mondiale, et sans compter notre propre électricité pour y accéder.
Ouais, on considère parfois que en 2020, la consommation juste d'Internet, d'énergie juste d'Internet, pourrait être l'équivalent de toutes les consommations d'énergie du monde en 2008. C'est vraiment gigantesque. Et donc voilà, on a un vrai gros souci là-dessus. Et l'autre alerte un peu, moi, que ça me donne, c'est de voir à quel point donc Apple, qui est déjà un mastodonte d'Internet, avec tout ce contrôle sur les données, sur la vie privée, qui est vraiment une gigaboîte hyper puissante, si elle se met à devenir à côté vraiment une très grosse productrice d'énergie, ça va être une concentration de pouvoir vraiment gigantesque dans les mains d'une société privée qui défend ses intérêts. Donc je trouve que c'est aussi toute une géopolitique, d'une certaine manière, qui est en train de se reconfigurer et que ça me paraît très important qu'on suive ça. Et juste un tout petit mot, je voulais signaler, pour pas être injuste, que dans l'IB d'aujourd'hui, il y a un article sur le désinvestissement. Grande page, et que bien sûr les collègues font le boulot et sont là pour raconter.
Se désinvestir du carbone, on le redit.
Se désinvestir du carbone et des énergies fossiles et aller donc vers cette économie plus durable.
Frédéric Danhé, une actualité très intéressante, on peut faire le lien avec un peu tout ça, c'est le préjudice écologique. Voilà, on n'était pas de nous très très au point donc en France. Où en est-on ?
Bon, on n'en est que ça, on discute hein, encore, ce sera peut-être dans la loi Taubira de cette année. Nous sommes donc en 2015, mon cher Denis, il faut savoir que ça existe dans la loi fédérale américaine depuis 1980, la notion de préjudice écologique, c'est la loi CERCLA. Je ne vous dirai pas ce que ça veut dire parce que j'ai des bilingues et si je me mettais à parler anglais, elle se moquerait de moi.
Pas du tout.
Donc la loi CERCLA, C-E-R-C-L-A, et en 1989...
Ça veut dire quoi, enfin, le préjudice écologique, que l'on comprenne bien en une phrase.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un préjudice pour la société américaine et pour le peuple américain, les entreprises sont assujetties à une amende et passent au pénal. Et ça a été le cas en 1989 suite à l'échouement de l'Exxon Valdez, où le préjudice écologique était versé à hauteur de 130 millions. Je rappelle que l'affaire a coûté 4,5 milliards de dollars à Exxon, qui pourtant avait financé largement la campagne de Bush, lequel Bush a signé largement pour une aggravation entre guillemets pour les pollueurs de cette loi, ce qui a abouti en 1990 à l'Oil Maritime Pollution Act, qui est la loi la plus restrictive en matière de pollution maritime à l'état américaine. Juste une petite question, quel est le pays qui le premier a dû payer un préjudice écologique ? Je vous pose la question, c'est l'Irak en 1991 qui a été attaqué par les États-Unis au sein de l'ONU, et l'ONU a obligé l'Irak, qui n'avait de toute façon plus un sou, à payer. En 1993, il y a une directive européenne qui a abouti à la convention de Lugano, qui a introduit dans le corpus juridique européen le préjudice écologique. 1993, nous sommes en 2015, on a donc quelques années de retard, et d'après ce que j'ai cru comprendre, la notion de préjudice écologique sera un peu interprétable en droit français. En tout cas, tant mieux. Je rappelle juste que donc 130 millions pour Exxon en 1989, 130 000 euros de préjudice écologique versé par Total suite à l'Erika. Voilà, mille fois moins.
Voilà, Choupi. Merci beaucoup donc à tous les trois donc d'avoir débattu, d'avoir exposé ces différentes actualités. Donc et puis on vous retrouvera pour d'autres rondes de journalistes aussi. Donc merci à Alain Gadan, Benjamin Dagatine à la technique, à Jérôme Boulet, à Albert Houck, à Christophe Imbert qui réalisait l'émission, à Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Moi je vous retrouve à 6h25 vendredi avec Boulet et Delvaux à 6h25 pour un petit bol de nature. Et puis donc rediffusion cette nuit, 01 56 40 40 35. Vous pouvez podcaster, hein, abonnez-vous au podcast aussi, vous le savez, vous avez l'habitude pour toutes les émissions. Et aussi CO2 Mon Amour. Et puis l'atelier du Bon Petit Loup, ce sera donc les livres pour enfants demain à 19h54. Et dans quelques instants, eh bien, ce sera la librairie francophone avec l'ami Emmanuel Kerrad. On vous souhaite une bonne route.